10. C'est juste des cafards, pas dangereux. Dès qu'ils voient de la lumière, ils s'enfuient. Si tu n'as pas d'étalé en hurlant en découvrant celui que j'ai tué, mais ça ne ressemble pas au garçon que j'ai appris à connaître. Tu as regardé entre les planches et tu as vu le puits et l'escalier. Parfois, il y a quelques cafards qui remontent, mais seulement quand le temps se réchauffe. Je ne sais pas pourquoi, étant donné que notre air est mortel pour eux. Ils commencent à se décomposer, même quand ils sont coincés sous les planches, et pourtant, ils essaient de les déplacer malgré tout. Une pulsion de mort? Qui sait? Ces deux dernières années, je suis devenu un peu négligent avec les planches au-dessus du puits. Du coup, il y en a deux qui ont réussi à passer. Ça faisait une éternité que ça n'était pas arrivé. Celui que tu as entendu au printemps est mort naturellement. Il ne reste plus qu'une patte et une antenne. L'autre, tu as vu par toi-même. Mais ils ne sont pas dangereux. Ils ne mordent pas. J'appelle ça le puits des mondes. Un nom que j'ai trouvé dans un vieux roman d'horreur à deux sous écrit par un certain Henry Kotner. Et je ne l'ai pas vraiment découvert. Je suis tombé dedans, en fait. Je vais te raconter tout ce que je peux, Charlie. En tant qu'Adrian Bodich, je suis né dans le Rhode Island, et même si j'étais bon en maths et que j'adorais lire, comme tu le sais, je n'aimais pas l'école, ni mon beau-père, qui me tapait dessus quand ça n'allait pas dans sa vie. Ce qui arrivait souvent, car c'était un alcoolo de première, incapable de garder un boulot plus de quelques mois. À 17 ans, je me suis enfui, et je suis parti vers le nord, dans le Maine. J'étais un solide gaillard. Alors je me suis fait engager dans une équipe de bûcherons et je me suis retrouvé au Diable Vauvert, à Aroostook County. Ça devait être en 1911, l'année où Amundsen a atteint le pôle sud. Tu te souviens que je t'ai raconté que j'étais un simple bûcheron? C'était la vérité. Pendant 6 ans, j'ai fait ce boulot. Et puis, en 1917... un soldat a débarqué dans notre camp pour nous annoncer que tous les hommes valides devaient se faire recenser pour la conscription au bureau de poste d'Island Falls. Plusieurs gars, parmi les plus jeunes, dont moi, se sont entassés dans un camion. Mais je n'avais aucune envie d'aller nourrir la machine de guerre quelque part en France. J'estimais que cette machine avait suffisamment de sang à boire. Elle n'avait pas besoin du mien en plus. Alors j'ai dit adieu au gars pendant qu'il faisait la queue pour se faire recenser et j'ai sauté dans un train de marchandises qui roulait vers l'ouest. J'ai échoué à Jenseville, pas très loin de l'endroit où on est maintenant, et je me suis fait engager dans une autre exploitation forestière. Quand il n'y a plus eu de boulot, j'ai suivi l'équipe jusqu'à Sentry County, devenu aujourd'hui Arcadia County, notre comté. Il n'y avait pas beaucoup de travail. Alors j'envisageais de pousser plus loin, jusque dans le Wyoming ou le Montana. Ma vie aurait été totalement différente si je l'avais fait, Charlie. J'aurais eu une durée de vie normale et on ne se serait jamais rencontrés, toi et moi. Mais à Buffington, là où se trouve la réserve forestière, je suis tombé sur une pancarte qui indiquait « On recherche un arpenteur ». Et dessous, quelque chose qui semblait fait pour moi. Bonne connaissance des cartes et des bois exigés. Je me suis présenté au bureau du comté. J'ai déchiffré quelques cartes, latitude, longitude, courbe de niveau, etc. Et j'ai décroché le poste. Ah, mon garçon! Je me sentais comme un gars qui est tombé dans une fosse à merde et qui en ressort avec une rose entre les dents. Je passais toute la sainte journée à arpenter les bois pour marquer des arbres, dessiner des cartes, répertorier des vieux chemins forestiers, et c'est pas ce qui manque. Parfois, je passais la nuit sous le toit d'une famille qui voulait bien m'héberger, ou alors je dormais à la Belle Étoile. C'était magnifique. Il m'arrivait de ne pas voir âme qui vive pendant plusieurs jours. Ça ne convient pas à tout le monde. Mais moi, ça m'allait très bien. Et puis, un jour, à l'automne 1919, j'étais à Sycamore Hill, ce qu'on appelait alors Sentry Woods. Sentry's Rest n'était encore qu'un village et Sycamore Street s'arrêtait au niveau de la Little Rumpel River. Le pont, le premier pont, ne serait construit que 15 ans plus tard, au minimum. Le quartier dans lequel tu as grandi n'est apparu qu'après la Seconde Guerre, quand les GI sont rentrés au pays. Bref, je marchais dans les bois, à l'endroit où se trouve mon jardin maintenant, derrière la maison. Je me frayais un chemin au milieu des arbustes et des buissons, à la recherche d'un chemin de terre dont on m'avait parlé. Je ne pensais à rien, je me demandais juste où un jeune homme pourrait boire un coup dans ce village. Et soudain, « Descendez, on vous demande !» Je marchais au soleil et la seconde suivante, j'étais dans le puits des mondes. Si tu as regardé entre les planches avec la lampe, tu sais que j'ai eu de la chance de ne pas y passer. Il n'y a pas de rampe et l'escalier tourne autour d'un sacré vide. Une vilaine chute d'une 50 mètres. Les murs sont faits de blocs de pierre, tu as remarqué? Ils sont très anciens. Dieu seul sait de quand ils datent. Certaines pierres se sont détachées et elles ont dégringolé jusqu'en bas où elles forment un petit tas. Durant ma chute, j'ai eu le réflexe de tendre la main et j'ai saisi une fissure dans une de ces niches, justement. La fissure mesurait à peine plus de 5 cm de large, mais j'ai pu y glisser les doigts. Je me suis plaqué contre le mur incurvé. Je regardais la lumière du jour et le ciel bleu tout là-haut. Mon cœur battait à 200 et je me demandais dans quoi j'étais tombé. Ce n'était pas un simple puits de toute évidence, avec ses marches qui descendaient et ses murs de pierre tout autour. Quand j'ai retrouvé ma respiration, rien de tel que de risquer la mort en tombant dans un trou noir pour te couper le souffle, j'ai pris ma lampe électrique coincée dans ma ceinture et je l'ai pointée en dessous de moi. Je ne voyais rien, que dalle, mais j'entendais des bruissements. Ça voulait dire qu'il y avait quelque chose de vivant en bas. Pourtant, je n'étais pas inquiet. En ce temps-là, je portais toujours un flingue dans un étui accroché à ma ceinture, car les bois n'étaient pas sûrs. Ce n'étaient pas tant des animaux qu'il fallait se méfier, même s'il y avait des ours noirs à l'époque, beaucoup. C'étaient des hommes, surtout des fabricants d'alcool de contrebande. Mais je ne pensais pas qu'il y avait un alambic planqué dans ce trou. Je ne savais pas ce que ça pouvait être, mais j'étais du genre curieux et je voulais voir. J'ai arrangé mon sac à dos, qui avait glissé dans ma chute et je suis descendu. Marche après marche, longtemps en tournant en rond. Le puits des mondes mesure 55 mètres de profondeur et il compte 185 marches de hauteur différentes. Il se termine par un tunnel de pierre. Il serait peut-être plus juste d'appeler ça un couloir. Il est suffisamment haut pour qu'on puisse l'emprunter sans baisser la tête, Charlie. Il y a encore de la marge au-dessus. Au départ, le sol était en terre battue. Mais au bout d'un moment, je sais maintenant que ça fait environ 500 mètres, c'était de la pierre. J'entendais de plus en plus les bruissements, comme du papier ou des feuilles qu'agite un vent léger. Très vite, ce bruit s'est retrouvé au-dessus de ma tête. En levant ma lampe, j'ai découvert que le plafond était couvert des plus grosses chauves-souris que tu as jamais vues de ta vie, avec une envergure de vautour. La lumière les affolait. Alors, je me suis dépêché d'abaisser ma lampe vers le sol. Je n'avais pas envie qu'elle s'envole autour de moi. Rien que de m'imaginer étouffé par leurs ailes, ça me mettait les nerfs en plotte, comme aurait dit ma mère. Les serpents et la plupart des insectes, ça ne me pose pas de problème. Mais j'ai toujours eu horreur des chauves-souris. Chacun ses phobies, hein. J'ai continué à avancer pendant presque 2 kilomètres. Et ma lampe commençait à faiblir. On n'avait pas de Duracell en ce temps-là, mon garçon. Parfois, j'entendais une colonie de chauves-souris au-dessus de ma tête. J'ai décidé de faire demi-tour avant de me retrouver dans le noir quand soudain, il m'a semblé voir une étincelle de lumière du jour droit devant. J'ai éteint ma lampe aussitôt. Et en effet, c'était bien la lumière du jour. Du coup, j'ai continué, curieux de savoir où j'allais ressortir. J'aurais parié sur la rive nord de la Little Rumpel, car j'avais eu l'impression de marcher vers le sud sans pouvoir en être certain. Mais juste au moment où j'approchais de la sortie, il m'est arrivé un truc. Je n'arrive pas très bien à le décrire, mais il faut que j'essaie, au cas où tu déciderais de marcher dans mes traces, si je puis dire. C'était une sensation de vertige, mais pas seulement. J'avais l'impression d'être devenu un fantôme, Charlie. Comme si je pouvais regarder mon corps et voir à travers. J'étais sans substance. Et je me souviens d'avoir pensé qu'on était tous des fantômes, en réalité, des fantômes qui évoluaient à la surface de la Terre en essayant de se convaincre qu'on avait un poids et une place dans ce monde. Cela a duré 5 secondes, peut-être, pendant lesquelles j'ai continué à marcher, même si je n'étais plus vraiment là. Puis cette sensation s'est envolée, et j'ai atteint la fin du tunnel, après un peu plus d'un kilomètre encore. Et je suis ressorti, non pas au bord de la Little Rumpel, mais à flanc de colline. Sous moi s'étendait un champ de magnifiques fleurs rouges, des coquelicots je pense, mais qui dégageaient une odeur de cannelle. Et je me suis dit, quelqu'un a déroulé le tapis rouge pour moi. Un chemin passait à travers les fleurs, jusqu'à une route au bord de laquelle j'apercevais une petite maison, un cottage. De la fumée s'échappait de la cheminée. Plus loin sur la route, à l'horizon, je distinguais les clochers d'une grande ville. Le chemin était presque effacé, comme si personne ne l'avait emprunté depuis très longtemps. Un lapin l'a traversé au moment où je me remettais en marche, 2 fois plus gros qu'un lapin ordinaire. Il a disparu dans l'herbe au milieu des fleurs.
Il y eut un silence. Mais j'entendais le souffle de M. Bowditch, plus rauque que jamais, laborieux. Puis il reprit son récit.
C'est une cassette de 90 minutes, Charlie. J'en ai trouvé une boîte pleine au 2e étage dans tout ce bazar. C'était avant qu'elle devienne obsolète, comme les timbres poste à 3 cents. Je pourrais enregistrer 4 ou 5 cassettes, peut-être même toute la boîte tellement j'ai vécu d'aventures dans cet autre monde. Et j'aimerais te les raconter si j'avais le temps. Hélas, ça m'étonnerait. Depuis ma petite séance de tir au pigeon dans le cabanon, je ne me sens pas très bien. J'ai des douleurs dans le cou et dans le bras aussi, jusqu'au coude, du côté gauche. Elle s'atténue un peu parfois, mais pas le poids qui m'écrase la poitrine. Je sais ce que signifient ces symptômes. Un orage se prépare en moi et ne va pas tarder à éclater. J'ai des regrets. Nombreux. Un jour, je t'ai dit qu'un homme courageux offrait son aide et un lâche offrait uniquement des cadeaux. Tu te souviens? J'ai offert des cadeaux. Mais seulement quand j'ai compris que je n'étais pas assez courageux pour apporter mon aide lorsque le terrible changement est survenu. Je me suis dit que j'étais trop vieux, alors j'ai pris l'or et je me suis enfui, comme Jack qui dévale le haricot géant. Mais lui n'était encore qu'un gamin. J'aurais dû faire mieux. Si tu vas dans cet autre monde, où 2 lunes apparaissent dans le ciel à la nuit tombée, et où il y a des constellations que les astronomes terriens n'ont jamais vues, il faut que tu saches certaines choses. Alors, écoute-moi bien. L'atmosphère de notre monde est fatale aux créatures de ce monde, à l'exception, je crois, des chauves-souris. Un jour, j'ai ramené un lapin, à titre expérimental. Il est mort très vite. À l'inverse, leur atmosphère n'est pas mortelle pour nous. Elle est même revigorante, au contraire. La ville était autrefois un endroit magnifique, mais désormais, c'est un lieu dangereux, surtout la nuit. Si tu veux y entrer, fais-le en plein jour. Et dès que tu auras franchi les portes, plus un bruit. Elle peut sembler déserte, mais elle ne l'est pas. Le pouvoir en place est redoutable, mais ce qui se cache derrière est plus terrible encore. J'ai balisé le chemin qui conduit à une place derrière le palais, de la manière dont je marquais les arbres dans la forêt autrefois, avec mes initiales, AB. Si tu les suis, sans te faire remarquer, tout ira bien. Dans le cas contraire, tu risques de te perdre dans cette effroyable cité et d'y trouver la mort. Je parle en connaissance de cause. Sans mes repères, je serai toujours là-bas, mort ou bien fou. La grandeur et la beauté ont été remplacées par la grisaille, la malédiction et la maladie.
Nouveau silence. Son souffle était plus rauque encore. Et quand il se remit à parler, je reconnus à peine sa voix tant elle était dure. Je devinais alors, c'était une quasi-certitude, qu'au moment où il prononçait ces paroles, j'étais au lycée, en cours de chimie, en train de déterminer le point d'ébullition de l'acétone.
Bradar m'a accompagné là-bas quand elle était jeune, presque un chiot encore. Elle a dévalé les marches du puits sans aucune peur. Tu as vu comme elle s'allonge à plat ventre quand je lui ordonne de se coucher. Elle sait obéir également quand je dis « chut » ou « silence ». Ce jour-là, on est passé sous les colonies de chauves-souris sans les déranger. Elle a franchi ce que j'en étais venu à appeler la frontière, sans signe de malaise apparent. Elle a beaucoup aimé le champ de fleurs rouges. Elle gambadait au milieu, elle se roulait sur le sol. Elle a adoré la vieille femme qui vit dans le cottage. La plupart des habitants de notre monde lui tourneraient le dos avec dégoût étant donné ce qu'elle est devenue maintenant. Mais je crois que les chiens sentent la nature profonde des gens et ils se fichent de leur apparence. Tu trouves ça trop romantique? Peut-être. Mais il me semble que... Stop. Je divague. Je n'ai pas le temps. Tu peux décider d'emmener Radar avec toi, quand tu seras les yeux tés. Ou alors tout de suite, car ses jours sont comptés. Grâce aux nouveaux médicaments, elle pourra peut-être descendre les marches. Si elle y arrive, je suis sûr que l'air de cet endroit lui donnera un coup de fouet. Aussi sûr que je peux l'être, du moins. Autrefois, des jeux étaient organisés dans cette ville. Et les milliers de personnes qui venaient y assister se rassemblaient sur la place dont je t'ai parlé en attendant de pouvoir entrer dans le stade qui fait partie du palais, ou qui a été ajouté plutôt. Près de cette place, il y a un énorme cadran solaire qui doit mesurer 30 mètres de diamètre. Il tourne sur lui-même, comme le manège dans le roman de Bradbury. Et je suis sûr qu'il... Peu importe, écoute plutôt ça. Ce cadran solaire est le secret de ma longévité. Et je l'ai payé au prix fort. Tu ne dois pas monter dessus. Mais si tu y installes Radar... Oh, bon sang. Je crois que ça y est. Oh, Seigneur.
Assis à la table de la cuisine, les poings serrés, je regardais tourner les roues du magnétophone à travers la petite fenêtre, et je voyais que la bande approchait de l'endroit où je l'avais rembobinée.
Charlie, je m'en veux de t'envoyer à la source d'un si grand nombre d'erreurs commises sur cette terre. C'est pourquoi je ne t'ordonne pas d'y aller. Mais le cadran solaire est là-bas. Et l'or aussi. Mes repères t'y conduiront. Souviens-toi, A, B. Je te lègue cette maison et le terrain, mais ce n'est pas un cadeau. C'est un fardeau. Chaque année, elle prend de la valeur. Et chaque année, la taxe foncière augmente. Mais plus que le percepteur, mais plus, je redoute... Cette horreur juridique appelé pouvoir d'expropriation et je... Dieu...
Non. Il avait du mal à respirer. Il avalait de grandes bouffées d'air encore et encore, clairement audibles sur la bande. Je sentais mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Il reprit la parole au prix d'un terrible effort.
Écoute-moi, Charlie. Tu imagines ce qui arriverait si les gens découvraient qu'il existe un autre monde à portée de main, auquel on peut accéder simplement en descendant 185 marches et en empruntant un couloir de moins de 2 kilomètres de long. Si le gouvernement découvrait qu'il pouvait exploiter les ressources d'un autre monde, maintenant que les nôtres sont quasiment épuisés, aurait-il peur de Flight Killer ou d'arracher à son lent sommeil le terrible dieu qui règne sur ce lieu? Pourrait-il comprendre les terribles conséquences de... Mais toi, si tu avais les moyens, toi...
Il y eut une succession de cliquetis et de bruits sourds, de halètements. Sa voix, quand elle sortit du magnétophone, était beaucoup plus faible. Il avait posé l'appareil et son petit micro incorporé.
Je fais une crise cardiaque, Charlie. Tu le sais. Je t'ai appelé. Il y a un avocat du nom de Léon Braddock à Elgin. Et aussi un portefeuille. Sous le lit. Tout le reste dont tu auras besoin se trouve également sous le...
Il y eut un ultime claquement. Puis le silence. Il avait éteint l'appareil volontairement ou appuyé sur la touche stop d'une main tremblotante sans le vouloir. Tant mieux. Je n'avais pas besoin de supporter ces râles d'agonie. Je fermai les yeux et demeurai assis là pendant... Je ne sais pas combien de temps. Une minute peut-être, ou trois. Je me souviens, dans cette obscurité, d'avoir tendu le bras vers le sol pour caresser Radar, car cela m'apportait toujours du réconfort. Mais Radar n'était pas là. Radar était plus bas, dans la rue, dans une maison normale, où il y avait un jardin normal, sans trous qui s'enfonçaient dans la terre, sans un invraisemblable puits des mondes. Qu'allais-je faire? Que faire, nom de Dieu? Tout d'abord, je retirai la cassette du magnétophone et la glissai dans ma poche. Elle était dangereuse. C'était peut-être la chose la plus dangereuse au monde, mais uniquement si les gens y voyaient autre chose que les divagations d'un vieil homme victime d'une crise cardiaque. Ils n'y croiraient pas, bien évidemment, sauf si... Je me levai et me dirigeai vers la porte de derrière, sur des jambes qui me paraissaient peu fiables. Et je regardais le cabanon que Monsieur Bowditch, un Monsieur Bowditch beaucoup plus jeune, avait bâti au-dessus de ce puits des mondes. Je le regardais longuement. Si quelqu'un y pénétrait, Seigneur, je rentrais chez moi.